Chers auditeurs, la crise la plus grave qu'ait connue l'Église latine s'est déroulée en cette fin du XIVe siècle. Il s'agit du schisme d'Occident. L'origine en a été l'élection du pape Urbain VI. En quittant définitivement Avignon, le pape Grégoire XII a mis fin à ce que l'on a appelé l'exil de Babylone de la papauté. Et à la mort de ce pape, survenu vite après son retour à Rome, les Romains vont exiger, manifestations et même menaces à l'appui, d'avoir un pape romain. On lui donnera un pape italien. Celui-ci va indisposer ses électeurs par ses apostrophes désobligeantes. Un groupe de cardinaux évoquera les conditions de cette élection. Il n'était pas libre et par conséquent, il convient de refaire cette élection. Ils vont donc choisir un autre pape, Clément VII, qui a résidé en Avignon. Urbain VI n'ayant pas démissionné, l'Église se retrouve avec deux papes à sa tête. La chrétienté est divisée. Les essais de réconciliation vont aboutir à la réunion d'un concile à Pise, où l'on va élire un autre pape, Alexandre V. Mais les deux autres n'ayant pas démissionné, on se trouve avec trois papes à la tête de l'Église. Il faudra encore plusieurs années et l'autorité de l'empereur pour arriver à la réunion d'un concile à Constance qui mettra fin au schisme. Quel a été, comme on dit, l'impact de ce schisme sur le diocèse de Bayonne? Le territoire de ce diocèse, on le sait, dépendait du royaume d'Angleterre pour le Labour et de celui de Navarre pour la Basse-Navarre et le Bastan. Cette situation va influencer la vie du diocèse car elle va commander le choix pour l'un ou l'autre pape. Dès le départ, l'Angleterre a pris le parti du pape de Rome. Le Labour se trouve ainsi entraîné à la suite d'Urbain VI avec son évêque Pierre d'Aurèche. Quand celui-ci meurt 5 ans après le début du schisme, en 1383, le chapitre est encore au complet à Bayonne et il va choisir pour lui succéder Barthélemy d'Aribert, un religieux dominicain d'origine bayonnaise qui va diriger le diocèse jusqu'en 1393. À cette date, il ne semble pas que le chapitre ait pu désigner son successeur. En tout cas, c'est un personnage assez curieux qui viendra à Bayonne, Menéndez Garcia, qui avait été évêque de Cordoue en Espagne. Mais la plus grande partie de ce pays, de l'Espagne, avait pris fait et cause pour le pape d'Avignon, Clément VII. Partisan d'Urbain VI de Rome, Menéndez Garcia dut quitter son siège de Cordoue. Envoyé comme ambassadeur par Urbain VI, auprès du roi d'Aragon, il fut pris, livré à Clément VII, emprisonné dans une tour à Fondi, en Italie, d'où il réussit à s'évader en se laissant glisser le long d'une corde. Urbain VI le nomma à Bayonne le 11 février 1393. Menéndez Garcia avait quelques problèmes avec la douceur évangélique. Dans une de ses querelles avec la ville, qualifiée, nous l'avons dit, d'homélique, concernant la taxe sur les vins, il mit Bayonne sous interdit, tout simplement. Les Bayonnais avaient déjà demandé son départ en tant qu'étranger. Une émeute populaire l'obligera à s'enfuir quelque temps. Quand il mourut en 1405, on lui donna un successeur en la personne de Pierre Vernet, un chanoine du chapitre de Bayonne, qui fut nommé par le successeur d'Urbain VI, Innocent VII. Pierre Vernet passa à l'obédience de ce troisième pape nommé à Pise, qui avait succédé à Alexandre V et qui s'appelait Jean XXIII. Pourquoi ce passage? Tout simplement parce que le souverain anglais, le roi Henri IV, avait fait ce choix, le choix du pape de Pise, et avait enjoint à son clergé, évidemment à celui de Bayonne et du Labour, d'en faire autant. Le sort de la Basse-Navarre fut différent parce que le choix de la Navarre ne fut pas le même que celui de l'Angleterre. Le roi Charles le Mauvais hésita longtemps, il est vrai, mais dès 1382, il avait déjà accueilli très froidement les émissaires de Rome. Pour lors, il penchait du côté d'Avignon. Plusieurs personnages de son entourage exerçaient leur influence en faveur de Clément VII, en particulier l'archevêque de Pampelune, Zaïba, et Miguel de Tabar, le prieur de Roncevaux. Un cardinal aragonais, du nom de Pedro de Luna, le futur Benoît XIII, avait fait un long séjour à Pampelune. Mais le personnage le plus influent était sans aucun doute Bernardo Garcia Eugui, le confesseur de Charles le Mauvais. L'action conjuguée de ces trois personnages finit par l'emporter. Mais ce fut le successeur de Charles le Mauvais, Charles III, qui annonça le 6 février 1390 l'adhésion de la Navarre à la papauté d'Avignon. Clément VII n'avait pas attendu cette date ni ce choix du roi de Navarre pour exercer son autorité spirituelle sur la Navarre. À la mort de l'évêque de Bayonne, que nous avons déjà évoqué, Pierre d'Orèche, en 1383, le pape d'Avignon voulut lui donner un successeur comme l'avait fait son rival de Rome. Il nomma un franciscain, Pierre de Sous-Malaga. Celui-ci ne pouvait pas rejoindre son évêché déjà occupé à Bayonne. Il choisit une résidence dans le royaume de Navarre, pas trop loin de Pampelune, mais évidemment et forcément sur le territoire de son diocèse. Il choisit Saint-Jean-Pied-de-Port, qui répondait à toutes ses exigences. Il s'y installa et quatre chanoines de Bayonne vinrent l'y rejoindre. Après quelques mois d'épiscopat, il mourut et il fut remplacé par Bernard Garcia Eugui le 12 février 1384. À sa mort, en 1409, le successeur de Clément VII, Benoît XIII, Pedro de Luna, que nous avons rencontré à Pampelune, désigna comme évêque de Bayonne Guillaume Arnaud de Laborde, un franciscain originaire du Béarn. Le roi Charles III l'envoya au concile de Constance pour y représenter la Navarre. Durant toutes ces années de troubles et d'affrontements, quelle était l'attitude du clergé et des fidèles du diocèse de Bayonne? Il semble que les esprits n'ont pas été très perturbés parce qu'ils considéraient sans doute tous ces conflits comme simplement un combat de chefs. Il n'y avait pas de cohabitation de factions rivales, le domaine de chaque pape étant géographiquement et politiquement bien délimité. La fidélité au roi et à l'Église ne souffrait d'aucune incompatibilité. D'ailleurs, en Navarre, comme dans le reste de la chrétienté, la notion d'appartenance à une obédience était souvent assez floue. Urbain VI avait décidé que le jubilé prévu pour 1400 serait célébré en 1390, cela pour des raisons d'impécuniosité. C'est son successeur, Boniface IX, qui procéda à son ouverture à Noël 1389. Clément VII porta un interdit, défendant à tout membre de son obédience d'aller à Rome. Le jubilé, malgré cet interdit, fut un succès et de grandes foules de toute appartenance se rendirent à Rome. Cette année-là, les responsables navarrais, pas très assurés sans doute sur l'attitude de leurs compatriotes, jugèrent bon de répercuter la défense de Clément VII et de rappeler qu'aucune grâce octroyée par Rome n'était valable. Le clergé devait faire comprendre aux fidèles qu'il ne leur appartient pas d'examiner ou d'approfondir ces choses. D'ailleurs, ils ne pourraient facilement parvenir à la connaissance de la vérité. Ils doivent s'en rapporter à leur pasteur, à qui incombe une telle tâche, au roi, aux grands, aux hommes instruits et notables qui connaissent ces affaires, qui peuvent les étudier et les comprendre. Nous verrons la prochaine fois la fin du schisme au Concile de Constance et la suite de l'histoire du diocèse de Bayonne après sa réunification.